Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nicolas Dose accueille les experts.
Isabelle Coupé-Soubéran, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen et chroniqueuse au Monde. Elle a publié Monnaie Banque Finance, 4e édition, c'est aux presses universitaires de France. Coordinatrice de Économie mondiale 2003, publiée par le CEPI.
2023.
Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP et qui a publié Redécouvrir les physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob. Il est également membre du comité éditorial de Pour l'écho et la une s'affiche sur votre écran, les 5 défis du commerce vert. C'est la une du numéro de décembre. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Jean-Marc, on vous a moins entendu là sur les derniers échanges.
Oui, non, mais je vais essayer de faire juste, non pas l'arbitre, mais de tirer à mon avis ce qui est le substantifique moelle du débat qui vient d'avoir lieu.
On vient de prononcer crise financière et voilà.
Oui, oui.
Et bulles.
Non, je suis assez d'accord avec Isabelle sur le fait que je pense que les banques centrales ne pourront pas revenir en arrière sur la taille de leur bilan.
Moi aussi.
Et je pense que cette idée qu'elles ont effectivement fait ce qu'il fallait, quand on regarde à la fois ce qu'elles font et ce qu'elles disent, il n'y a pas de cohérence entre toutes les banques centrales. Par exemple, la Banque du Japon assume parfaitement de continuer
c'est
à faire...
C'est autre chose le Japon, Jean-Marc.
Ben oui, enfin, c'est quand même la troisième économie mondiale.
Oui, mais c'est un pays pas comme les autres. On peut dire aux Japonais, votre salaire n'augmentera jamais, ils le tolèrent.
Oui, ah non, enfin, là, là-dessus, il y a un changement.
Je pense, l'inflation commence un peu.
Je crois qu'il faut pas non plus avoir une vision trop.
Vous avez vu les Japonais au Mondial dans les tribunes qui ramassent tout ce qui traîne par terre et qui mettent ça dans un sac poubelle en faisant en plus du tri.
Bravo.
Bah oui, mais voilà, je trouve ça plutôt pas mal.
Voilà, très bien.
Bah, très bien. Et bah, un Japonais, c'est juste quelqu'un pas comme les autres.
Non, mais il y a d'autres pays où on est propre.
Dans les stades, en Asie. T'as déjà vu quelqu'un qui ramasse ses orgues dans les stades avant de partir les gobelets en plastique?
Il n'y a que 32 équipes. Il y a 195 pays dans l'ONU, donc...
Bon, enfin, j'invite les auditeurs téléspectateurs à s'intéresser au Japon. C'est un pays qui est un pays qu'on oublie trop et qui est un lieu d'intelligence et d'innovation. Et donc, la Banque Centrale du Japon assume pleinement l'idée qu'on ne peut pas sortir comme ça du quantitative easing brutalement, en montant les taux d'intérêt, en arrêtant d'acheter la dette publique. Ça suppose une phase de transition et ça suppose aussi de faire le bilan de ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait et pourquoi on renoncerait systématiquement à cette politique. De même, la Banque d'Angleterre, mes chouchous de la Banque d'Angleterre, arrête pas de dire que effectivement, la hausse des taux d'intérêt n'a de sens que si elle permet de conforter le taux de change, mais qu'elle ne sera pas l'outil véritablement le plus efficace pour lutter contre l'inflation, et qu'il n'est pas question de laisser tomber le trésor britannique. On a d'ailleurs vu que dès qu'elle annonce qu'elle va laisser tomber le trésor britannique, le gouvernement saute. Donc, c'est quelque chose qui est d'une violence et d'une virulence qui est absolument difficile à manier. On ne peut pas le manier comme ça.
Là, elle risque de le mettre un petit peu en difficulté, le Trésor britannique, parce que c'est lui qui va devoir compenser les pertes de la Banque d'Angleterre.
La dernière remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a un indicateur très important, c'est que les banques centrales se mettent à faire des pertes. Alors, effectivement, c'est plus privé, une banque centrale. Dans les années... Puisqu'on parle... Jusque dans les années 30, la banque centrale, elle était... privé. Et donc, on ne se serait pas permis de faire une des pertes à la Banque Centrale. La Banque Nationale de Suisse, qui est privée, a dit qu'elle ne serait jamais menacée d'avoir le même statut que ce qui se passe au Canada. Mais enfin, quand même, c'est une vraie révolution. Il y a un changement. On doit se poser la question de savoir à quoi ça sert, cette Banque Centrale, si ses conditions d'exercice de son métier débouchent sur une situation qui est une situation totalement inédite. Et donc, pour conclure, je pense que, contrairement à ce qu'on pense, la Banque Centrale, c'est très pratique. La façon dont se comporte une banque centrale. Il y a eu des périodes où elle était là pour financer le trésor, il y a eu des périodes où elle était là pour lutter contre l'inflation, il y a des périodes où elle était là pour effectivement faire en sorte que les dettes publiques ne soient pas ne débouchent pas sur de la banqueroute. Je pense que maintenant, il y a une vraie question à se poser, c'est par rapport à ce que je maintiens être de l'impuissance, comment retrouver de la compétence ?
Doit-elle changer en fait de priorité ?
De priorité, en tout cas, le statut de 78 de la Réserve fédérale en disant, rassurez-vous, il y aura la stabilité des prix, le plein emploi et les taux d'intérêt dont on a besoin pour la croissance, je pense qu'il faut oublier ça. Ce n'est pas réaliste.
On se rend bien compte que monter les taux aujourd'hui aux États-Unis en disant en même temps que la mission c'est de préserver le plein emploi, il y a un nous coûte. À un moment, ça marche plus.
Et d'ailleurs, mais non, Powell le dit lui-même, il dit j'y arriverai pas.
Attendez, j'aimerais lire des confusions.
Non, non, attendez, on reprend pas.
Il y a des confusions. L'inflation est
près du micro.
Est récessive.
Oui.
Il faut se le mettre ça dans le crâne. Mm-hmm. C'est pas immédiat, mais tous les pics de cycle sont précédés par des pics d'inflation. Même si la cause de la récession n'est pas nécessairement uniquement ou exclusivement l'inflation. Même, vous avez même un pic d'inflation avant Lehman Brothers, à cause de la hausse du prix du baril, par exemple. Bon, voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'incompatibilité entre la recherche de la stabilité des prix et la croissance. Ce dont tu parles, là, Jean-Marc, ça fait 35 ans qu'on est là-dedans. Moi, j'ai appelé ça l'économie de bulle. Et pour moi, l'acte fondateur de l'économie de bulle, c'est pas la fin du Gold Exchange Standard dans les années 70. C'est le lundi noir, 19 octobre 1987. Quand monsieur
Greenspan.
Alan Greenspan, qui est au pouvoir depuis deux mois, qui a succédé à Paul Volcker, dit, oh là, ça me rappelle, c'est le premier grand krach boursier d'après-guerre, moins 20,6 pour le S&P 500 en une journée, moins 22 pour le Dow Jones, et il dit, ça, moi, le seul truc que j'ai connu dans l'histoire, c'est 29. Donc je vais faire ce que la réserve fédérale n'a pas fait dans les années 30. Donc je vais inonder liquidités, et il y a les bulles immobilières, les premières bulles de l'immobilier commercial qui démarrent à la fin des années 80, les savings and loans qui sont en grosse difficulté, etc. Et ensuite, c'est toujours pareil, j'ai décrit ça dans un bouquin pour Odile Jacob, d'ailleurs, qui a eu un prix Turgot, c'était dans les années 2003-2004. Donc voilà, et ça marche toujours comme ça, donc on vit là-dedans, donc c'est pour ça que ta critique, je comprends pas trop bien, parce que, d'ailleurs, toi qui connais bien ça, Jean-Marc, quel a été l'objectif principal des premières banques centrales?
Ah mais justement, c'est...
Alors vas-y, dis-nous.
C'est le discours de Thornton en 1811 devant la Chambre des communes. Il dit deux choses.
Oui.
La première chose, c'est d'éviter la banqueroute, de faire en sorte que l'État ne fasse pas banqueroute. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les banques qui sont illiquides mais solvables continuent.
Voilà. Et la première banque centrale, c'est la Riksbank. D'ailleurs, c'est la même chose, c'est la Suède. Et Napoléon, pourquoi il a créé la Banque de France en 1800?
Mais parce que...
Bah pourquoi, d'après toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y avait eu la guerre et la banqueroute des deux tiers avant. Donc,
oui,
vous voulez éviter ça.
C'est intéressant. Donc, quand tout même. Donc, l'économie de bulle, c'est ancien, d'une certaine manière.
Non, c'est intéressant ce petit point sur la stabilité financière, mission ancestrale des banques centrales, mission qu'elles ont complètement perdue de vue pendant des décennies jusqu'à la crise financière de 2007-2008. Après ça, on s'est dit, il faut que les banques centrales vraiment réinvestissent cette mission de stabilité financière, mais l'ont-elles fait véritablement? Je pense que la réponse est non. Je pense que la gestion de crise financière et la gestion de crise sanitaire a été vraiment, si vous voulez, mauvaise du point de vue de la stabilité financière. Je pense que là, on est à un moment où on va sans doute être amené à réaliser cela. Si les bulles qui se sont formées explosent, eh bien, on verra.
Mais les bulles n'arrêtent pas d'exploser. Gestion... Enfin, elles pètent toutes à un moment donné.
Mais en fait,
une bulle, Jean-Pierre.
Tu l'as dit tout à l'heure. Une banque centrale gère une crise passée en préparant la crise future.
C'est là-dedans. C'est le monde dans lequel nous vivons.
Bah oui, mais
il faut être réaliste.
Le problème, c'est que la dette, c'est toujours être plus forte que la crise.
Oui, mais comment faire pour gérer la dette? Parce qu'il y aura toujours le passif. Comment faire pour la gérer?
Et
si c'est par des taux réels faibles ou négatifs.
Tout à l'heure, Jezabel Coupet-Souberan disait on sous-estime le pouvoir monétaire incroyable. Et c'est en pensant à vous ce matin dans ma petite liste de sujets que j'ai pondu cette formule complètement j'ai écrit dans un monde parfait et merveilleux que devrait faire une banque centrale. Si on force le trait, est-ce qu'il ne faut pas qu'elle endosse carrément le rôle de trésor et qu'elle fasse finalement une politique qui serait plus budgétaire que monétaire?
Oui, je sens comme une petite pointe d'ironie dans la production de cette phrase là, dans
oui,
un monde parfait et merveilleux, dans un monde à la oui-oui. C'est pas dans un monde à la oui-oui que la banque centrale devrait être au service de la société. C'est dans un monde normal que la banque centrale devrait être au service de l'économie dans son ensemble.
Service de l'économie et de la société, concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement,
c'est de l'hélicoptère monnaie forever?
Non, pas nécessairement non, mais ça veut dire, si vous voulez, une banque centrale qui ne travaille pas que pour les banques et les marchés, qui ne travaille pas qu'à l'enrichissement des banques et des investisseurs sur les marchés financiers.
Vous trouvez que c'est ce qu'elle fait aujourd'hui?
Mais bien sûr,
on a fait quoi qu'il en coûte grâce à la banque centrale.
Alors, je pense que la banque centrale, à travers son action des dernières décennies, certes, on n'a jamais le contrefactuel, peut-être que ça aurait été pire sans.
C'est fondamental.
Okay. Mais je pense que ça a surtout servi à approfondir le capitalisme financier dans lequel nous sommes. Ça n'a absolument pas servi à amorcer les transformations dont nos sociétés ont besoin.
C'est-à-dire que on a juste évité les faillites et le chômage. Bon.
Oui, les banques centrales ont certes, si vous voulez, abaissé considérablement le coût de l'argent. Pour autant, ça n'a pas permis véritablement aux États d'investir comme ils l'auraient dû dans la transition écologique. Et je pense que on se trompe quand on dit que les banques centrales ont monétisé la dette publique. Elles n'ont pas monétisé la dette publique. L'argent des banques centrales, entre guillemets, c'est-à-dire la monnaie centrale, est allé dans les poches de ceux qui leur ont vendu des titres. Alors certes, ça a facilité, mais facilité seulement le financement des États. Ça n'a pas engagé, ça n'a pas financé directement les États.
Et donc, qu'est-ce qu'elle devrait faire de différence
le contrefactuel.
En quelques mots, parce que je veux faire réagir.
Oui,
bien
oui.
Sûr.
Je pense qu'on
ça profite aux gens et aux économies cette fois.
Alors, on a besoin, d'abord, si vous voulez, que les banques centrales s'impliquent beaucoup plus dans le financement de la transition écologique. D'accord. Je pense qu'on ne financera pas la transition écologique simplement avec des dettes bancaires ou avec des dettes sur les marchés financiers avec des financements privés. Il faut du financement public et pas simplement du financement public par de la dette sur les marchés. Il faut que les banques centrales finance les États, finance une partie.
Donc c'est du budget là.
Non, alors attention.
Je vois pas l'outil.
Mais non.
Quel outil on utilise ?
Mais c'est pas faire de la politique budgétaire à la place des États que de financer les États. C'est au contraire permettre à la politique budgétaire de s'exercer. C'est ça. C'est financer les États d'une manière différente de celle qui prévaut aujourd'hui.
Alors,
aujourd'hui
pas sous
les
forme
États...
de quantitative easing alors.
Alors, non.
Sous quelle forme ?
Les États, aujourd'hui, s'endettent sur les marchés.
Oui,
d'accord.
Oui,
et les banques centrales ont facilité cela en rachetant les titres des États.
Sur le marché secondaire, les titres.
Exactement. Et c'est pour ça que c'était compatible avec leur mandat.
Voilà.
Eh bien, les banques centrales pourraient rouvrir des lignes de crédit pour les États, les financer directement pour qu'ils échappent
marché
à la pression
alors,
du marché.
Marché primaire.
Oui.
L'Agence France Trésor lance une adjudication et la BCE prend.
Exactement. Donc déjà, ça permettrait en fait de soustraire les États à la pression du marché.
Ah bah là, vous voulez, oui,
elle
là,
pourrait
il
même,
soustrait l'État, oui.
Elle pourrait même faire autre chose. C'est donner de la monnaie centrale aux États pour la partie des investissements dans la transition écologique qui ne sont pas rentables et dont pourtant nous avons besoin. Ces investissements non rentables, c'est pas le marché qui va, c'est pas le marché qui va les assurer.
Je vais réagir, Isabelle Coupé-Souberon, par rapport à ce qui vient d'être dit, qui est hyper carré, hyper précis. Je crois que tout le monde a compris.
Écoutez, ça peut vous surprendre, mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Isabelle. Je crois
j'ai un choc là.
Je répare. Isabelle vient de nous dire que la Banque centrale doit faire beaucoup plus en direction des États et de leur population, quitte à acquérir sur le marché primaire les obligations d'État à l'émission.
Oui, financer directement les États. Je reviens au discours
cette
de.
Cette fois-ci,
leur faire des crédits directement. Il n'y a même pas besoin que les États.
Cette fois-ci, le mot monétisation, là, pour le coup, il aura du sens. Hein.
Exactement.
Bon,
et ça définanciarise.
De Henry Sorton en 1811, rappelant ce que c'était une vraie banque centrale sur le modèle de la Banque de Suède et puis ensuite de la Banque d'Angleterre de 1694. L'objectif, c'était effectivement de faire en sorte qu'il y ait un outil financier qui finance l'État, quoi qu'il arrive, avec comme objectif, sur la base d'un programme de ce que réalisait l'État. Mmh. Et donc, quand on crée la caisse d'escompte, donc avant la Banque de France, il y avait une caisse d'escompte, et donc le directeur avait dit, moi je fais 3% pour certains types de... Mais si vous faites la guerre, ce sera 5%. Donc il y avait la Banque centrale qui disait à l'État, il y a des choses que je vais accepter,
d'accord.
Et il y a des choses en revanche qui me paraissent hors de ce que vous devriez faire en tant qu'État, si vous faites la guerre, ce sera plus cher. Bon, alors ça c'est une immixtion dans la politique, je pense que ce n'est pas ça, mais qu'il y ait une sorte d'accord entre la Banque centrale et l'État sur un programme à la fois d'évolution du cadre budgétaire, d'évolution du déficit budgétaire, de consolidation de la dette publique et d'équilibre des comptes à moyen et long terme, ça me paraît
ce sera dans votre esprit, c'est du donnant-donnant.
C'est du donnant-donnant.
Bon.
On a changé ce modèle parce que le 20e siècle a été marqué par l'inflation. Donc il y avait une urgence qui était effectivement de mettre en place tout un dispositif et tout un outil de lutte contre l'inflation. Donc la Banque centrale était indépendante, elle ne finançait plus l'État.
Mais je vais avancer. Oui, allez-vous faire...
Oui, et donc à partir de ce moment... Mais je pense que cette période-là est derrière nous.
D'accord.
Et donc, repenser la Banque centrale, ça doit être faire en sorte que ce soit un outil qui soit au service, effectivement, des problèmes que nous connaissons. Et je pense que le discours de 1811 est plus que jamais pertinent.
C'est-à-dire,
la reconstruction de l'Angleterre en 1811 s'apparente à la reconstruction de notre économie dans un cadre de contraintes écologiques.
Et c'est de l'argent super magique, là, ce qu'on vient de décrire. Mais pourquoi
on
fait pas depuis toujours ?
Je comprends pas la critique de tout à l'heure, parce que là,
mais pourquoi
on en a
réussi. Non, c'est pas de l'argent super magique, parce que du super magique. Magique, là.
Mais
non,
là,
non, je suis pas d'accord.
Mais l'argent, c'est magique, hein, de toute façon.
Le crédit, c'est toujours de la création de monnaie. Là, en l'occurrence, il s'agit de faire créer la monnaie non pas par les banques commerciales, mais par la banque centrale.
Qu'est-ce qu'on attend ? Mais qu'est-ce qu'on a
mais on l'a déjà
fait. Non, mais alors,
Mais non, mais on l'a déjà fait. Le véritable enjeu dans tout ça, c'est effectivement l'aléa moral, c'est de considérer que les banques commerciales sont plus à même d'apprécier la pertinence des projets que la banque centrale. Je pense que c'est vrai sur le secteur privé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'activités publiques où, effectivement, il serait naturel que ce soit la banque centrale qui soit porteuse de ça.
La grande différence, c'est que la banque commerciale peut faire faillite.
Oui.
Et la Banque Centrale n'a
oui, enfin, sous une certaine mesure.
Rendez-vous compte de l'histoire.
Et d'autre la Banque Commerciale, elle peut faire faillite si elle fait faillite, c'est parce qu'elle a prêté à des gens qui eux-mêmes peuvent faire faillite. La Banque Centrale, si elle prête à l'État, elle prête à quelqu'un qui ne fait pas faillite.
Il est infini. Il fait défaut, mais pas faillite.
Et voilà, il ne fait pas faillite. Il ne fait pas faillite. Donc je pense qu'effectivement, recréer des liens particuliers entre la Banque Centrale et l'État dans un contexte nouveau, ça me paraît assez pertinent.
Honnêtement, quand j'écrivais Monde merveilleux et.
Oui, non, mais c'est intéressant, bon, hein, d'ailleurs, de voir Jean-Marc à la conversation.
Attention, attention quand même.
Je veux quand même que Jean-Pierre Petit nous donne son avis. Allez-y.
Non, non, mais.
Elle vous dit d'accord. Juste à agir.
Attention, attention au cadre de gouvernance. C'est-à-dire que, en effet, je pense qu'on. On serait beaucoup mieux, si vous voulez, on serait beaucoup mieux loti si la monnaie centrale aller directement financer des programmes de transformation sociale et écologique. Cela étant, je crois que c'est pas seulement à la Banque centrale et à l'État ou aux États de décider de cela. C'est-à-dire qu'il faut réinventer le cadre de gouvernance.
C'est la BRI alors.
Permettant cela. Non,
c'est la banque centrale.
Il faudrait mettre autour de la table à la fin.
Pas ensemble, sinon alors là.
Non, il ne faut pas non plus, si vous voulez, que la Banque centrale devienne le bras monétaire armé de l'État. Si l'État est bienveillant, très bien. S'il ne l'est pas, ça pose un gros problème. Donc il faut un cadre de gouvernance qui permette de faire fonctionner cela de façon suffisamment démocratique.
Des banquiers centraux.
Plutôt une table de négociation avec des représentants de la Banque centrale, bien sûr, du Trésor, bien sûr, mais aussi sans doute des parlementaires, qu'il y ait un dialogue avec les parlementaires, qui est des représentants de la société civile et qui est par exemple des scientifiques du climat quand il s'agit de financer un programme de transformation écologique.
J'en reviens à cette histoire que j'ai racontée mille fois, le jour où il y a pas mal, enfin on était en plein quantitative easing et c'était le boucher de mon quartier qui me dit mais dites-moi monsieur Dose, en fait la banque centrale peut tout faire, pourquoi je travaille et pourquoi je paye des impôts puisqu'elle peut tout faire? Et là on est c'est les propos qu'on porte, ça donne ce sentiment.
Non, il s'agit pas qu'elle fasse tout,
hein. Il s'agit pas de tout faire, il s'agit de financer des gens qui font votre boucher. Concrètement, la banque centrale, il a bien conscience que la banque centrale c'est pas elle qui abat les
non, mais je trouve ce dialogue très très intéressant. Commencer par critiquer les banques centrales, on lui demande de faire plus. Bon, c'est très bien. L'économie de bulle, elle est extraordinairement puissante. Elle fait bouger le cerveau de Jean-Marc. Voilà. La conversion, danieliste.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de se dire, Jean-Marc?
Non, mais
Petit,
de toute façon.
Moi, je suis désolé, mais qu'est-ce qu'on attend?
Il faut solder le passé et il faut préparer l'avenir. Donc tout ça passe pas des taux réels, très que ça soit par financement direct ou indirect. De toute façon, il faut des taux d'intérêt réels faiblement positif, nul ou le négatif. Parce qu'il n'y a pas que la transition climatique, mes amis. Il y a la transition technologique, la transition démographique, la protection sociale, le vieillissement, etc. La transition migratoire. Il va y en avoir des trucs à gérer. Puis la transition géopolitique. Même les Allemands s'en aperçoivent, hein, qu'ils n'avaient pas assez de dépenses militaires. C'est bien beau, Jean-Marc, hein, d'annoncer des ratios de dette publique sans financer la défense européenne ou sans financer les infrastructures allemandes qui servent à l'ensemble de l'Europe et pas seulement à l'Allemagne.
C'est un mode de financement alternatif.
Il y a
des impôts aussi. On peut financer tout ça par des impôts.
Oui,
tous les pays sont pas au même niveau de prélèvement.
C'est vachement bien. Ça marche vachement bien en France, hein, de financer ça par les impôts.
Mais ça, on n'a pas le courage de le faire par des impôts. C'est différent, ça.
Mais non, mais est-ce que ce qu'on vient de décrire, c'est un monde parfait et merveilleux qui n'existera pas?
Non, pas un monde parfait, ça n'existe pas les mondes parfaits. Mais
vous voyez ce que je veux dire.
Ce qui m'intéresse, c'est que, enfin, moi je m'en souviens, j'avais des débats ici il y a 10 ans sur le quantitative easing. Oui. Beaucoup de gens qui critiquaient le quantitative easing, je ne me rappelle plus qui, mais enfin bon, peu importe.
Ça a pu arriver.
Voilà, où il y a 15 ans, etc., les excès de politique monétaire, maintenant on en arrive à de la part des gens opposés à ces politiques-là, à préconiser des financements directs de la Banque Centrale. Ça veut dire que, voilà, on n'a pas le choix, il n'y a pas d'alternative. Enfin, on vit dans ce monde.
Je ne comprends pas la cohérence.
Je ne comprends pas la critique, là.
Ah oui, moi non plus.
Moi, ce que je comprends dans la critique, c'est que vous critiquiez auparavant les banques centrales, qui de toute façon ont favorisé tout ça, par des taux réels, qui sont restés, parce que sinon, c'était 29%. Le niveau de dette en 2007 était supérieur à celui de 29. Donc voilà, donc on a financé l'économie de bulle, on a régulé l'économie de bulle. Et ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de miracle, même par le financement direct, il y aura quand même des bulles. Faut pas rêver.
Bah, je pense qu'il y en aura moins.
Pourquoi il y en aurait moins?
Mais si, il y en aura moins.
Bien sûr que si.
Mais...
si vous accumulez de la richesse, si vous accumulez, ça se passe toujours comme ça.
Si vous accumulez
de la liquidité vers des secteurs, il y aura forcément des excès. Il y en a dans les valeurs ESG. Il y a de la survalorisation.
Si ça va à la transformation de l'économie réelle, là où on en a besoin, plutôt que d'aller dans le grand aspirateur de la finance.
Non, mais parce que là,
je suis désolé, il y aura moins de financiarisation.
Un monde idéal qui n'existe pas.
Mais pas du tout. Je suis en train d'éclairer les transformations.
Les valeurs ESG sont censées aller favoriser la transition climatique. Il y a des excès monstrueux là-dedans. Ne croyez pas que parce que vous allez mettre des gens autour de la table et favoriser des structures, des fléchages de financement, il ne va pas y avoir d'excès. Bien sûr que si, qu'il y aura des excès.
Il y a Nathalie Janson qui m'écrit: la Banque Centrale n'a rien à faire dans la transition écologique.
Oui, mais Nathalie Janson, on connaît
son...
La
Banque Centrale n'a rien à faire dans la transition écologique. En revanche, l'État a une mission. L'État a une mission et qu'à ce moment-là, la Banque Centrale, elle finance quand l'État lance des emprunts qui sont des emprunts pour répondre à cette mission, que la Banque Centrale les finance en priorité, ça me paraît naturel. Il faut laisser à chacun sa mission. C'est les banques commerciales doivent financer des activités commerciales, des activités privées,
marchandes,
et faire faillite quand ces activités marchandes ne sont pas efficaces.
J'ai énormément d'auditeurs qui sont très étonnés de votre position sur...
On a retourné Jean-Marc.
Je voyais déjà depuis quelques années que ça...
Je n'aurais pas cru ça.
Il y a 10 ans, c'était l'étalon or, alors là.
Encore une fois, Sorton, donc je cite, donc je vais.
Sorton, non, mais ok, allez, Sorton.
C'était dans le cadre de l'étalon or. Il faut qu'il y ait une.
Au 19e siècle, maintenant, là. Tu ne peux pas rétablir l'étalon or.
Greenspan, dont on a parlé, maintenant, il termine sa carrière en disant: la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir approfondi nos recherches sur l'étalon or.
Oui, après avoir favorisé l'économie de bulle.
Oui. D'accord. Mais c'est son mea culpa.
Ce qu'on a décrit là dans les 15 minutes qui viennent de s'écouler, vous croyez sincèrement que ça peut être un monde de demain?
De quoi?
Là, ce qu'on vient de décrire. Une banque centrale qui fait des choix... Qui a ses circuits de financement.
Moi, je suis pratiquement le seul dans ce truc-là, là, le débat des experts qui, depuis que je viens, depuis 2005, est toujours préconisé ces politiques. Voilà. Ce que j'ai vu en face de moi, c'est un financement direct des banques centrales.
Alors, formidable.
Voilà, d'accord.
Mais il y a quelques années, je trouvais qu'il y avait pas mal d'opposition.
Il y a des résistances,
c'était sur la quantité.
Voyons, Jean-Marc. Tu vois, même les auditeurs s'en sont aperçus qu'il y a une conversion.
Pas du tout.
Il y a des résistances institutionnelles qui sont énormes. Pour ça, en ce qui concerne l'Europe, et plus particulièrement la zone euro, il nous faut changer le mandat de la Banque Centrale Européenne. Il nous faut changer le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Oui. Mais on peut changer ça, c'est pas gravé dans le marbre.
Ça peut se changer. On a 2 minutes 50. Je reviens à des choses plus immédiates. Je pense pas que ce qu'on vient de décrire, ça c'est pour lundi prochain par exemple. Vous avez vu que la Fed va continuer à monter ses taux, mais moins. La BCE va y aller. Alors, j'avais dit, il y a deux camps qui s'affrontent. J'aimerais savoir dans quel camp vous êtes. Parce que là, j'ai vraiment eu ce débat assez souvent. Ceux qui disent, on a payé des fortunes depuis Covid pour essayer de tout préserver. Là, il y a des menaces de récession. S'il vous plaît, ne montez plus les taux d'intérêt. Vous allez précipiter cette récession. Et tous les sous qu'on aura investis pour tout sauver, on va tout perdre parce que vous allez tout casser. Et puis ceux qui disent, il y a un mandat. C'est la lutte contre l'inflation. On a une inflation sous-jacente à 5, 6. On est à 2 de taux d'intérêt. Il n'y a pas d'autre solution quand on a cet écart entre l'inflation sous-jacente et les taux que de les monter pour freiner l'inflation.
Les banques continuent à monter. Ce débat est un peu clos parce que les taux directeurs maximum sont déjà pricés dans le marché obligataire. Ils sont corrects, ils sont à 5 à peu près aux États-Unis, à 3 pour la zone euro, donc c'est plus le sujet. Le sujet, c'est de calmer les anticipations d'inflation. Il faut revenir de 9 vers les 4 progressivement d'ici l'été prochain aux États-Unis, à 2,5 aujourd'hui en zone euro, vers les 6,5 au printemps, été prochain,
ça,
progressivement, et ensuite on s'ajustera.
On monte les taux, on continue?
On monte les taux tels qu'ils sont pricés aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le choix. Et encore une fois, lutter contre l'inflation, c'est C'est lutter sur les pour les bases d'une croissance durable et saine.
1 minute 30, voilà. Isabelle Coupé.
C'est sans doute pas pour lutter contre l'inflation. Alors certes, elles doivent jouer sur les anticipations d'inflation, mais la hausse des taux pourra pas grand-chose contre de l'inflation structurelle, évidemment casser l'économie, ce qui la plongera en déflation, etc. Mais les ressorts de l'inflation structurelle resteront là. En revanche, moi, je pense qu'il faut... Il faut que les banques centrales remontent les taux, mais pas du point de vue de l'inflation. Il faut qu'elles le fassent en pilotant ça graduellement du point de vue de la stabilité financière, justement pour éviter un dégonflement brutal des bulles. Donc il faut que les taux remontent. On sort de toute façon d'une période complètement folle de taux bas, de taux négatifs. Il faut que les taux remontent, mais graduellement pour éviter l'explosion de ces bulles.
Et donc aller jusqu'à 3, quoi. À 3, on s'arrête, c'est ça? En zone euro
sans doute pas, parce qu'après, il y a l'écart entre les taux de la zone euro et ceux de la Fed. Ça joue sur le taux de change, ça amène de l'inflation importée, donc c'est plus compliqué que ça.
C'est sûr que si on veut avoir un euro plus fort, il vaut mieux monter les taux. Bon, allez, 30 secondes, Jean-Marc.
Moi, c'est taux d'intérêt égal taux de croissance, donc tant qu'on n'en sera pas là, il faut monter les taux, mais dès qu'on est là, il faut arrêter.
Oula, déjà là.
Mais pas du tout.
Ah non, il l'a toujours dit, ça.
Je l'ai toujours dit, alors là, les
taux.
Taux d'intérêt égal taux de croissance, c'est la règle absolue.
Sans que tu capitules, genre.
Non, c'est la grande métamorphose de Jean-Marc.
Mais bon,
on peut s'en réjouir. Ouais. On vient quand même de s'éclater pendant une heure avec des sujets comme ça. Hein. C'est pas mal. Non, mais c'est franchement.
C'est pas fini, hein, ce
sujet. Oui. Non, mais là,
l'essentiel, c'est qu'il faut repenser à ce qu'est une banque centrale. Ça, c'est
exactement. Ce qu'elle doit faire. Et au service de qui elle doit
faire. J'ai pas pris le temps, mais j'ai une nombre de réactions. Comme quoi ça fait réagir.